Bien. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Nous allons lire les deux premiers versets. Apocalypse 11, les versets 1 et 2. Et l'apôtre Jean, donc, écrit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Depuis le début de notre étude, nous avons souligné que le livre de l'Apocalypse est un livre qui représente la réalité de l'histoire avec des symboles, premier mot sur la feuille. Au chapitre 1, par exemple, rappelez-vous, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ se tenir au milieu des chandeliers d'or, ces chandeliers qui représentaient les églises auxquelles le Seigneur s'adresse. Il tenait les étoiles dans sa main, étaient symboles des anges, des églises. De sa bouche sortait une épée à double tranchant, symbole des deux faces de son évangile, à la fois le jugement sur le péché, mais aussi le salut par grâce, un message tranchant. Ce sont tous donc des visions que l'on doit interpréter de manière symbolique, et c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est aussi vrai, et nous l'avons déjà vu, des nombres dans le livre de l'Apocalypse, le nombre 7, parle de plénitude, de perfection, les sept esprits de Dieu, parle le Saint-Esprit dans la totalité de son œuvre, de sa manifestation. Nous avons vu au chapitre 7 les 144 000 qui représentent la multitude des rachetés à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui s'avancent sur terre comme le peuple d'Israël marchait en route vers la terre de la promesse. Ce nombre est aussi défini, ce qui montre que Dieu connaît les siens, que le salut est défini. Et avant donc de venir aux visions que nous avons ici, à partir du chapitre 11, le chapitre 11, 12 et 13, des visions qui sont détaillées, et donc nécessaire de se rappeler de la nature de ce livre que nous étudions. Parce que certaines personnes décrivent et veulent que l'on décrive ces passages et qu'on interprète ces passages de manière littérale. Elles disent que ces visions sont une représentation de personnes et d'événements qui doivent et qui vont se dérouler exactement comme cela est écrit, ou qui se sont déroulés exactement comme cela est écrit si cela est au passé. Et cette interprétation oublie donc la nature de ce livre qui, nous l'avons souligné, est un livre qui utilise essentiellement des symboles. Et le passage donc, que nous voulons voir ce matin, les deux premiers versets de ce chapitre 11, est un passage qui justement montre l'importance de bien comprendre les choses et de les comprendre correctement. Ce passage, certains l'ont appelé le carrefour des interprètes. Parce que la manière dont on interprète cette vision va influencer notre capacité à comprendre le livre et à tirer le message de ce livre. C'est sans doute un des passages les plus importants et les plus difficiles. Et la raison de l'importance et de la difficulté de ce passage, c'est qu'il nous force à prendre une décision claire sur la manière dont on va étudier ce livre. Et c'est pour ça qu'il me semble intéressant ce matin de prendre le temps pour faire une comparaison. Alors, ce ne sera pas une comparaison non plus trop détaillée, mais une comparaison entre les différentes approches de ce livre pour que ce soit clair pour nous comment nous interprétons son livre et pourquoi nous interprétons le livre de cette manière et non d'une autre. Nous avons besoin de le comprendre parce que cela va poser certaines base pour la suite. Par exemple, il est question ici de 42 mois. On verra, et cela va revenir plus tard dans le livre. Il est donc nécessaire de prendre le temps pour bien comprendre ce dont il est question. Jean est appelé donc ici, dans ces premiers versets, à participer. On lui donne un roseau semblable à une verge. Il ne nous dit pas, mais c'est peut-être l'ange précédent que nous avons vu précédemment dans la vision au chapitre 10 qui lui donne cela. Et Jean reçoit donc cet ordre de se lever, de mesurer le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas. Et donc le premier point, c'est les trois interprétations majeures. Alors, il y a toutes sortes de variantes à ces interprétations. Mais les trois interprétations majeures. La première interprétation, sans doute la plus courante dans le monde évangélique aujourd'hui, est une interprétation qu'on appellera l'interprétation littérale futuriste. Deuxième mot sur la feuille. Et cette interprétation affirme que ce passage décrit littéralement un bâtiment, un temple qui sera construit dans le futur. Cette interprétation, elle est souvent associée avec ce qu'on appelle le dispensationalisme. Cette approche met l'accent sur une lecture littérale, stricte de toute la Bible, y compris l'Apocalypse. Ce qui est le plus important pour le dispensationalisme, c'est en fait une présupposition que le plan de Dieu pour Israël et le plan de Dieu pour l'Église sont fondamentalement différents. Selon les dispensationalistes, un commentateur dit « Quand la Bible parle d'Israël, elle ne veut pas dire l'Église, et quand la Bible parle de l'Église, elle ne veut pas dire Israël. Les deux sont séparés. Dieu fait différentes choses pour chacune d'elles. » Et avec cette approche, le livre de l'Apocalypse est considéré dans son ensemble comme décrivant avant tout des plans de Dieu futurs pour Israël ethnique. Et c'est donc un livre qui, à partir du chapitre 3, selon cette interprétation, une fois qu'on a vu toutes les sept lettres, à partir du chapitre 3, ce livre, selon cette interprétation, en fait, n'a aucun message direct, troisième mot sur la feuille, aucun message direct pour l'Église. C'est intéressant pour l'Église de savoir ce que Dieu fait dans l'histoire avec Israël, mais en fait, cela n'a aucun rapport avec l'Église, selon cette interprétation. Et selon cette interprétation, Apocalypse 11 parle d'événements futurs qui n'ont aucun rapport avec la situation et les besoins pastoraux des églises auxquelles Jean s'adresse. Des églises qui, rappelez-vous, sont sur le point de connaître la persécution de la part de l'empereur Domitien. Et on est obligé de constater que il n'y a pas de thèse plus improbable concernant l'Apocalypse, à mon avis. Et voilà, avec cette approche futuriste du dispensationalisme, le temple dont parle Jean ici est un bâtiment physique, un bâtiment littéral qui sera rebâti par une nation d'Israël reconstituée sur la montagne de Sion. Le problème, vous le savez aussi bien que moi, c'est que cette montagne est occupée à l'heure actuelle par deux bâtiments qui sont chers à l'islam, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Et donc, les dispensationalistes disent que ces bâtiments doivent être détruits, sans doute par une guerre sanglante, afin de permettre à un nouveau temple, quatrième mot sur la feuille, à un nouveau temple d'être reconstruit. Et avec cette approche, la reconstitution de l'État d'Israël en 1948 et la capture de Jérusalem par les Israélites après la guerre des Six Jours en 1967 sont des événements qui sont considérés par les dispensationalistes comme étant des signes que voilà, le temple va bientôt être reconstruit et le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. C'est sans doute la raison pour laquelle le dispensationalisme est devenu populaire dans le monde évangélique, parce que voilà, les événements qui se sont passés avec Israël semblent avoir une explication biblique. Il y a maintenant une reconstitution de la nation d'Israël. Ils ont capturé Jérusalem. Cela veut dire que le temple va bientôt être reconstruit et cela veut dire que Christ va revenir. L'application de cette approche, c'est que les chrétiens doivent faire pression sur les politiques pour que les nations apportent leur aide à Israël. Et cela a influencé la politique étrangère de pays comme les États-Unis. Et donc on nous dit, voilà, il faut chercher des signes dans les journaux pour voir, voilà, que la reconstruction du temple va bientôt arriver. Alors, il y a des difficultés majeures avec cette approche dispensationaliste, en particulier avec cet accent qui est mis sur un peuple d'Israël qui reconstruirait un temple à Jérusalem. Parce qu'il n'y a aucun fondement dans le Nouveau Testament pour affirmer qu'un temple physique, littéral, sera reconstruit, à moins de présupposer que ce passage parle d'un temple littéral. C'est une raison pour laquelle ce passage est important. Parce que si on ne présuppose pas que ce passage parle d'un temple littéral, il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament qui parle de reconstruction d'un temple. En Matthieu 24, par exemple, quand Jésus annonce la destruction du temple, il n'a jamais laissé entendre que ce temple serait reconstruit. Et ce n'est pas étonnant, parce que le temple où avaient lieu les sacrifices rituels était une ombre, cinquième mot sur la feuille, une ombre dont Jésus est la réalité. Jésus est l'accomplissement. Il est l'agneau de Dieu, il est le sacrifice, il est le sacrificateur. Hébreux 10 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a mis fin à tous ces sacrifices. Il n'y a donc plus aucune raison valable pour la reconstruction d'un temple littéral, physique, et pour le rétablissement des sacrificateurs et des sacrifices. C'est pour ça, par exemple, que lorsque Jésus meurt sur la croix, Matthieu 27, verset 51, nous disons que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Il n'y a plus de raison d'avoir un temple physique. C'est pour ça qu'en l'an 70, Dieu a détruit le symbole, Dieu a détruit le temple physique, parce que la réalité, parce que Christ est venu. L'idée d'une nation future d'Israël qui serait restaurée par Dieu pour le servir avec un temple et des sacrifices d'animaux est en totale contradiction avec le message de la Bible. Ces sacrifices viendraient nier la suffisance du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. En l'an 70, Dieu a détruit Jérusalem, il a détruit le temple, précisément parce qu'il jugeait le peuple des Juifs à cause de leur rejet de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Un temple reconstruit ne ferait que rétablir le rejet du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, même si certaines personnes croient dans une certaine forme de restauration de la nation d'Israël, l'idée d'une nation que Dieu restaurerait autour d'un temple qu'il a lui-même détruit en l'an 70, est une idée qui est plus que bizarre. Même si un temple devait être reconstruit par Israël, il se tiendrait comme un monument à la gloire de l'incrédulité, un monument à la gloire du rejet de la croix, un monument à qui renierait, qui nierait le sacrifice parfait qu'accomplit le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la première interprétation. La deuxième interprétation est une approche littérale, mais on la décrirait non pas futuriste, mais passéiste. Sixième mot sur la feuille. Ces personnes qui défendent cette interprétation voient les prophéties de l'Apocalypse comme étant accomplies dans le passé, dans justement la destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70. Ils disent que ce passage décrive ces événements. Mais le problème, c'est que cette interprétation mélange à la fois le littéral et le symbolique. Ces personnes voient le temple comme représentant l'Église, le parvis extérieur représentant des Juifs non-croyants. Par contre, la ville sainte qui est foulée aux pieds pendant 42 mois, c'est une description littérale de la chute de Jérusalem, selon cette deuxième interprétation. Le commentateur dit, ce passage annonce comment la Jérusalem incroyante sera foulée aux pieds pendant 42 mois par les païens, par l'armée romaine dirigée par l'empereur Titus, alors que Jean mesure les vrais saints qui sont le véritable temple. Il y a deux gros problèmes, en fait, avec cette approche passéiste, littérale. La première, nous l'avons vu au début de notre étude, c'est que cela implique que le livre de l'Apocalypse soit écrit avant la destruction du Temple et de Jérusalem en l'an 70. Cela voudrait dire aussi que la persécution dont parle le livre serait la persécution sous l'empereur Néron. Or, nous avons dit que le témoignage de l'Église primitive affirme que le livre de l'Apocalypse a été écrit plus tard, au milieu sans doute des années 90, et puis que le type de persécution qu'a infligé Néron ne correspond pas à la persécution qui est annoncée ici dans le livre de l'Apocalypse. Elle colle davantage à la persécution sous Domitien, puisqu'elle concerne l'adoration de l'empereur et de son image. Néron, lui, il persécutait les chrétiens, tous les chrétiens, et sa persécution était à Rome et autour de Rome. Elle n'a jamais débordé dans la province d'Asie. Or, cette lettre est écrite à des églises qui sont en Asie au sujet d'une persécution à venir. Et ce n'est pas la persécution sous Néron. L'Apocalypse n'a pas été écrite avant l'an 70, et nous l'avons déjà dit. Mais l'autre problème, donc, c'est cette inconséquence entre l'interprétation littérale et l'interprétation symbolique. Cette approche passéiste dit que dans ce passage, le temple est symbolique, le parvis extérieur est symbolique, mais la ville sainte est littérale. Et ils sont obligés de faire cela, parce que si le temple est littéral, alors il y a un problème avec l'an 70, où le temple est détruit. Or, dans ce passage, le temple est protégé. Donc, cette deuxième interprétation, elle aussi, elle ne colle pas. La troisième approche est l'approche que nous avons abordée, que nous avons gardée depuis le début de notre étude de ce livre. C'est une approche qui interprète systématiquement les images de manière symbolique. Septième mot sur la feuille. Bien sûr, les dispensationalistes vont argumenter contre cette approche en disant que cela ne va pas avec une lecture littérale de l'Écriture. Mais si la Bible utilise des symboles, il faut les comprendre comme des symboles, et non pas les comprendre et les interpréter de manière littérale. La manière correcte d'interpréter les symboles est la manière symbolique. Et nous l'avons vu déjà tout au long de notre étude de ce livre. Et avec cette approche, Jean ici ne décrit pas des événements futurs au sujet d'un temple littéral, ou des événements passés qui se seraient déroulés avant l'an 70. Non, ce que Jean décrit, c'est la situation dans laquelle ses lecteurs se trouvent. À la fois les lecteurs du 1er siècle, mais les lecteurs du 21e siècle, de nous aujourd'hui. Il décrit ce qui se passe pour les croyants et pendant toute l'ère de l'Église, pendant l'ère de l'Évangile, la réalité historique entre la première venue de Christ et son ascension et son retour, la situation des croyants et la situation de l'Église jusqu'au retour de Christ. Trois interprétations majeures, donc. Ce qui nous amène au deuxième point, qu'est-ce qui est décrit ? Qu'est-ce qui est décrit ? Nous allons donc, bien sûr, considérer cela avec l'approche symbolique. Le temple, la vision se concentre sur un temple. Et dans le Nouveau Testament, le temple est utilisé pour décrire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. dans leurs lettres, les apôtres soulignent que les croyants sont le temple de Dieu. Quand on parle de temple, on ne parle pas d'un bâtiment, mais on parle de l'Église de Christ. Huitième mot sur la feuille. 1 Corinthiens 3,16, par exemple. « Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 2 Corinthiens 6,16 « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » L'Église est le temple de Dieu. Pierre lui-même l'a écrit dans 1 Pierre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ce mot « temple », donc, ne fait pas référence à un bâtiment, mais à une communauté qui forme un temple spirituel dans lequel Dieu habite par sa présence. Et donc cette vision, il faut la comprendre de manière symbolique. Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple. Cela montre l'engagement de Dieu à préserver son Église à travers les tribulations. Dieu va ériger une barrière pour protéger, 9e mot sur la feuille, pour protéger son peuple. Cette vision ressemble en fait à la vision des croyants qui ont été scellés au chapitre 7. Au milieu des jugements de Dieu, l'ange est venu et a mis une marque sur tous les croyants afin qu'ils traversent, qu'ils sortent de la grande tribulation en vainqueur, qu'ils entrent dans la gloire céleste. Église, ici, la véritable Église est mesurée. Elle est protégée. Mais en même temps, on dit à Jean, on dit au verset 2 qu'il ne doit pas mesurer le parvis extérieur. C'est une utilisation symbolique de la cour des païens qui se situe à l'extérieur du temple. Et c'est une manière de décrire ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont chrétiens de nom seulement, qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Ces personnes sont associées à l'Église d'une manière ou d'une autre, mais ne sont pas réellement les membres du corps de Christ. Ils n'ont pas de foi réelle, 10e mot sur la feuille. Ils n'ont pas de réelle foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et cette préoccupation concernant une fausse foi ou un faux enseignement, nous l'avons déjà vu, par exemple, dans les 7 lettres. Rappelez-vous, ne soyez pas tièdes. Ne tolérez pas un faux enseignement. Et on retrouve cela, c'est un avertissement. Le parvis extérieur, il n'est pas protégé, il n'est pas mesuré. Il ne faut pas être sur le parvis extérieur, il faut être dans le temple. Et puis il parle de la ville sainte foulée aux pieds, symbole de la communauté, 11e mot sur la feuille. La communauté de l'Église, nous voyons dans toute cette ère dans laquelle nous vivons, l'Église sera foulée aux pieds par les nations, ce qui symbolise bien sûr le monde incroyant. Foulée aux pieds, la ville sainte, c'est l'équivalent du martyr dans ce livre. Mais l'ordre qui est donné à Jean de mesurer l'Église assure au peuple de Dieu, assure aux chrétiens, du temps de l'apôtre Jean, mais aussi à nous ce matin, qu'ils seront protégés, qu'ils seront gardés, que Dieu va les garder en toute sécurité au milieu des tribulations, au milieu des épreuves de ce monde. Mais il souligne aussi que ceux qui ne sont que des chrétiens de nom, qui sont des chrétiens seulement superficiellement, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu la nouvelle naissance, eux ne sont pas protégés. Et en fait, ils rejoindront les incroyants pour persécuter la véritable Église. Et au verset 2, nous lisons que les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Cette expression de 42 mois, avec les équivalents, on va la retrouver plusieurs fois. Donc, important donc de bien la comprendre, que ce soit 42 mois, 3 ans et demi, un temps des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours, c'est la même durée. Et vous avez deviné, sans doute, qu'il y a encore plusieurs approches. Il y a l'approche, encore une fois, littérale futuriste des dispensationalistes, l'approche la plus répandue, qui dit que ces 42 mois décrivent une période littérale de 3 ans et demi, dans laquelle il y aura une tribulation sur une Jérusalem littérale, avec un temple littéral, physique, et que cela aurait lieu après l'ère de l'Église, après que l'Église ait connu son enlèvement secret. Il y a l'interprétation littérale passéiste, qui décrive le siège de Jérusalem en l'an 70, mais que beaucoup remettent en question. Et il y a l'approche symbolique qui voit ces 42 mois qui expriment non pas une quantité de temps, mais une qualité de temps. C'est une période particulière par sa qualité. C'est une période qui se démarque par la persécution et qui cependant est limitée par la volonté de Dieu. On va regarder cela en détail, en essayant d'être aussi simple que possible. Tout d'abord, on retrouve ce nombre 42 pour la première fois dans la Bible, dans le livre de l'Exode. Combien de temps s'est-il écoulé entre la sortie du pays d'Égypte et la traversée du Jourdain? 42 ans. Il y a 2 années entre la sortie du pays d'Égypte et l'arrivée devant le Jourdain, mais il y a eu la rébellion, il y a eu 40 ans dans le désert. Ça nous fait 42 ans. 42 ans, la période donc dans laquelle Dieu a mis à l'épreuve le peuple d'Israël, mais aussi une période dans laquelle il l'a protégé. Il l'a nourri avec la manne. La colonne de fumée et de feu a protégé, a guidé ce peuple. 42 donc est associé avec cette traversée du désert. Si vous lisez le chapitre 33 du livre des Nombres, vous verrez qu'il y a la liste des étapes où le peuple s'est arrêté pendant sa traversée. Et si vous faites le total, il y en a 42. 42 étapes. 42 donc représente une période d'épreuve, 12e mot sur la feuille. Une période d'épreuve où l'Église semble être en danger, mais où Dieu guide et protège son peuple. La deuxième référence de cette période, on la retrouve au temps du prophète Élie. Vous vous rappelez sans doute l'histoire. Le prophète confronte le roi Achab, ce roi idolâtre. Il prie et il ne pleut pas. Il ne pleut pas pour combien de temps? Luc 4, verset 27. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. 42 mois. Et il y eut une grande famine sur toute la terre. C'est encore donc un temps d'épreuve. Le prophète est en exil, mais le prophète est nourri. Il est nourri auprès du ruisseau. Dieu prenait soin de son serviteur, de son peuple, aussi petit soit-il, de son Église. Ce nombre, 42 mois, ou 3 ans et demi, ou 1260 jours, décrivent cette période. Mais cette période, on la retrouve dans le livre de Daniel. Nous avons déjà vu et nous verrons que l'Apocalypse utilise beaucoup de matériel de ce livre, Daniel. Daniel 7, 25 annonce la grande persécution à venir de la main d'Antiochos Épiphane au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous lisons, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Antiochos Épiphane, nous le savons, a profané le temple, c'était le temps de la guerre des Maccabées. Et cela durait 3 ans et demi. Et pour les Juifs, même les croyants d'origine juive, cette période de 42 mois, ce nombre, signifiait une période comme celle que le peuple a connue sous Antiochos Épiphane, ou comme la sécheresse sous le roi Achab. L'Église, pour les croyants, ils comprenaient le parallèle. L'Église est persécutée, elle est foulée aux pieds, oui, mais Dieu la protégera. 13e mot sur la feuille. Elle est gardée. L'Église est gardée pendant cette période. La prophétie la plus importante dans le livre de Daniel est celle que nous avons lue tout à l'heure au chapitre 9. Chapitre 13, intéressant. Daniel réalise que le temps de l'exil en Babylone arrive à sa fin. En Jérémie 25, verset 12, il est écrit « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, et je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. » Cette durée de 70 ans d'exil a commencé donc avec le premier exil en l'an 606. Daniel le savait puisqu'il en a fait partie de ceux qui ont été exilés. Maintenant, Daniel est avancé en âge. Il sait compter. Il sait que ses 70 ans, il réalise que ses 70 ans sont bientôt passés. De plus, Jérémie avait prophétisé que le royaume de Babylone allait tomber. Et c'est ce qui venait de se passer avant Daniel chapitre 9. Daniel comprend donc les temps. Daniel sait aussi qu'il y a une explication théologique de tout cela. Et pour cela, il faut retourner en Lévitique 26. Lévitique 26 parle des sabbats de la terre. Tous les 7 ans, le peuple d'Israël devait laisser la terre en jachère. Il devait laisser la terre se reposer. Il devait donner à la terre un sabbat, un repos. Et Dieu donnerait au peuple d'Israël un surplus de récolte la 6e année pour qu'il ne manque de rien la 7e. D'après vous, combien de fois le peuple d'Israël a-t-il observé le sabbat de la terre? Aucune. Aucune fois. Et Lévitique dit, si vous relisez le passage, que si le peuple ne donne pas à la terre son repos, Dieu le fera. Lévitique 26, versets 33 et suivants, « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. » Pendant 490 ans, le peuple a négligé les sabbats de la terre. Le peuple n'a pas donné à la terre ce repos, ce sabbat que Dieu avait donné, avait ordonné. Et donc il devait à la terre 70 ans de repos. Dieu a emmené le peuple en exil pour que la terre soit en repos pendant 70 ans. C'est 490, c'est 70 fois 7. Ces 70 ans d'exil correspondent donc à la période dans laquelle le peuple n'a pas laissé la terre se reposer tous les 7 ans. Et Lévitique 26 dit que lorsque la période d'exil touche à sa fin, ce que le peuple doit faire, c'est de prier, de confesser ses péchés. Le peuple devait demander la miséricorde de Dieu et Dieu renverrait le peuple vers le pays. Et c'est ce que nous avons en Daniel chapitre 9. Daniel a compris. Il a compris et il prie selon Lévitique 26. Il prie et il prie au nom d'Israël, il confesse ses péchés. Et il sait que c'est ainsi, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Et lorsque Daniel a terminé de prier, nous l'avons lu tout à l'heure, l'ange Gabriel apparaît et lui dit que sa prière a été exaucée et que le décret sera donné pour que s'accomplisse ce qui a été annoncé en Lévitique 26 et que le peuple retourne dans le pays. Et à la fin du chapitre de Daniel 9, nous avons cette prophétie très connue. Après le décret, il y aura 70 semaines à la fin desquelles le plan de Dieu sera accompli. Versets 24 et suivants, Daniel 9, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Le peuple n'a pas respecté les sabbats de la terre. Il l'a fait pendant 70 fois 7 ans. Et ces 70 semaines correspondent donc aux 70 années de repos qui n'a pas été donné. Ils correspondent au péché d'Israël. Mais après cette période, il y a une nouvelle période qui est centrée sur celui qui est oint, sur le Messie. Les péchés du peuple ont pour réponse la grâce de Dieu en Jésus-Christ. 14e mot sur la feuille. Voilà le symbolisme de Daniel 9. Beaucoup, malheureusement, passent à côté de cela. Et l'ange Gabriel va diviser ces 70 semaines. Il dit tout d'abord, il y a 7 semaines, puis un prince viendra. Et l'histoire nous dit que c'est Zorobabel qui va dédicacer le temple une vingtaine d'années plus tard. Ensuite, après ces 7 semaines, il y en a 62, qui nous fait 69 au total, 483 années. Puis le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, viendra. Il sera retranché. On parle de sa mort, la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. On a bien les 70 semaines. Les 7, 62 et la dernière semaine. Cette semaine représente la période de la nouvelle alliance. Cette semaine qui est divisée, la première moitié, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Une référence à ce qui s'est passé en l'an 70. La destruction du temple, la destruction de Jérusalem, ce qui nous laisse la deuxième moitié qui va de l'an 70 jusqu'au retour de Christ, période qui est aussi décrite par les autres images comme 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi. C'est une façon de dire que cette période où la ville sainte est foulée aux pieds pendant 42 mois est le temps donc qui reste entre la chute de Jérusalem en l'an 70 et le retour de Christ. C'est une description donc de l'ère de l'Évangile dans laquelle nous vivons. Et c'est là que l'interprétation dispensationaliste littérale est mal à l'aise. Parce qu'elle insiste qu'il faut interpréter les nombres de la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse de manière littérale. Et donc les 483 années, c'est-à-dire les 69 semaines avant la venue de Christ, doivent signifier 483 années littérales. Et le problème, c'est que le décret pour reconstruire Jérusalem a été donné par Cyrus le Grand en l'an 538 avant Jésus-Christ. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. L'ange Gabriel a dit que c'est ce décret qui lance le calcul. Daniel 9, verset 25. Et quand on lit la fin du deuxième livre de Chroniques ou le début du livre d'Esdras, on a ce récit, les deux disent la même chose, que c'est Cyrus qui donne l'ordre de faire reconstruire Jérusalem et son temple. On ne peut pas arriver au ministère du Seigneur Jésus-Christ en prenant une lecture littérale. Et cela décourage beaucoup de personnes parce qu'ils essayent de trouver une solution pour que les nombres collent ensemble. Et donc, pour résoudre le problème, ils disent qu'il faut commencer le calcul à partir d'un autre endroit. Et ils vont calculer à partir du décret d'Artaxerxès en l'an 457 avant Jésus-Christ. Et beaucoup pensent qu'en partant de ce décret, on arrive à l'entrée de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Mais bien sûr, il y a des problèmes avec cette interprétation. La première, c'est que nous n'avons pas de date exacte concernant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais surtout, c'est que cette interprétation dit que le point de départ, c'est le décret d'Artaxerxès, ce qui contredit ce que nous avons lu en Daniel chapitre 9, que c'est le décret de Cyrus qui est le départ du calcul. Et donc, ceux qui défendent l'interprétation littérale, on les voit, ils essayent de changer le récit de la Bible pour que les nombres correspondent au lieu de faire l'inverse. L'autre point, c'est que les dispensationalistes enseignent que la dernière semaine se déroule non pas après la venue de Christ, mais après l'enlèvement secret de l'Église. Et donc avec cette interprétation, on a les 69 semaines jusqu'à la venue de Christ, ensuite l'horloge s'arrête. On a ensuite, d'après eux, l'ère de l'Église, que les dispensationalistes appellent une parenthèse, parce que pour eux, l'Église et Israël sont différents. Dieu arrête son œuvre avec Israël, il fait une autre œuvre avec l'Église, et quand l'Église est enlevée en secret, selon eux, ce qui est bien sûr pas biblique, nous l'avons vu dans notre étude aux Thessaloniciens par exemple, c'est alors, selon eux, quand Dieu a fini avec l'Église, qu'il l'a enlevée, alors se déroule la dernière semaine sans les croyants, sans les chrétiens, mais avec un temple reconstruit à Jérusalem. Mais cette interprétation, elle part, on dit, d'une présupposition qui est fausse. Une présupposition qui dit qu'il n'y a pas de lien entre Israël et l'Église du Nouveau Testament. Mais la parole de Dieu ne fait pas cette distinction. Il y a un livre dans le Nouveau Testament qui détruit la présupposition des dispensationalistes qui dit que Israël et l'Église sont séparés, que l'Église n'est qu'une parenthèse. Ce livre, c'est le livre de l'Apocalypse. Tout au long de ce livre, Jean s'adresse à son audience, à l'Église, aux croyants du Seigneur Jésus-Christ. Il utilise les symboles d'Israël. 15e mot sur la feuille. Christ a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est une promesse de Dieu à Israël, c'est une promesse qui est accomplie en Christ. Plus tard, nous verrons la cité, la Nouvelle Jérusalem, qui a les noms des 12 tribus d'Israël sur les portes et les noms des 12 apôtres sur les fondements. Ça décrit le peuple racheté, tout le peuple de Dieu racheté de toute l'histoire. Ils sont un en Christ. L'Ancien Testament est notre livre, le Nouveau Testament est notre histoire. Ce livre, tout le livre nous concerne. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas non plus, vous avez peut-être déjà entendu parler de la théologie de remplacement qui dit, on voudrait nous dire que l'Église remplace Israël. Non, il n'y a pas de remplacement. Dieu a un seul peuple, choisi de toute éternité, racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul salut, un seul Seigneur, un seul peuple. Ce que nous avons, ce sont des symboles. Ce livre est rempli de symboles, ne l'oublions pas. Et puis Daniel 9, verset 27 dit que Jésus fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Nous l'avons dit, la première moitié concerne l'enlèvement du temple en l'an 70. La seconde nous dit dans quel genre d'histoire nous vivons. Nous vivons comme Israël en route vers la terre de la promesse. Nous n'y sommes pas encore. Ce monde n'est pas notre demeure. Nous traversons un désert, nous traversons une épreuve, ce que l'Apocalypse appelle la grande tribulation. Mais Dieu pourvoit nos besoins. Dieu garde son peuple, il nourrit son peuple, et un jour il nous fera traverser le Jourdain pour entrer dans la gloire. On pourrait se comparer à Élie, nourri par Dieu auprès d'un ruisseau. On sait que c'est Akab qui règne. On sait qu'aujourd'hui, ce sont les serviteurs de l'ennemi qui gèrent le monde, les médias, la culture. Parfois, on se dit choqué que de voir les chrétiens et l'enseignement de la Bible être exclus de la société. Mais l'Apocalypse nous rappelle que c'est la réalité, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais nous sommes comme Élie, nous sommes comme le peuple d'Israël. Dieu prend soin des siens. Il nourrit son peuple. Il répondra à nos prières. Plus tard, on verra au chapitre 12 la métaphore du dragon, de Satan, qui essaye de dévorer la femme qui vient de donner naissance à l'enfant. La femme s'enfuit dans le désert pour une période de 1260 jours, de 3 ans et demi. Une image de l'Église qui est nourrie par la main de Dieu. Une image du genre d'expérience à laquelle on doit s'attendre. Oui, il y aura des tribulations dans ce monde. C'est un moment d'épreuve, mais avec Dieu, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu prend soin de son peuple. Il sort le roseau pour mesurer son peuple et il gardera son peuple en sécurité. Quelle application peut-on tirer de cela? C'est que dans un monde qui est hostile, ce monde dans lequel nous vivons, un monde qui est hostile au Seigneur Jésus-Christ, à l'Évangile, aux disciples de Christ, et cela ne devrait pas nous surprendre. Nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu, 16e mot sur la feuille. Nous sommes appelés à nous rapprocher, et là, dans sa présence, auprès de lui, nous avons cette assurance que notre âme sera gardée en sécurité. Oui, nous allons connaître la persécution, nous allons souffrir de différentes manières, mais nous serons gardés en sécurité pour ce salut qui sera révélé au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'image ici. Nous sommes appelés à l'adorer au pied de l'autel. L'autel qui nous rappelle le sang de Christ, le sang qui a été versé une fois pour toutes. Nous devons nous appuyer sur la toute suffisance de l'œuvre de Christ qui a été immolée une fois pour toutes. Mais cet autel nous rappelle aussi l'autel de la prière. Nous sommes appelés à crier vers Dieu, à nous approcher de lui dans la prière. Nous sommes le peuple de Dieu, ceux qui adorent Dieu dans son temple et au pied de l'autel. Et ensemble, nous nous approchons pour l'adorer. Dieu établit sa barrière autour de nous et le monde ne pourra jamais nous détruire. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Mais il y a un avertissement, 17e mot sur la feuille. Un avertissement qui est là, donné aux chrétiens de nom, ceux qui sont liés plus ou moins avec l'Église, mais qui n'appartiennent pas à l'Église, au corps spirituel. Ils sont comme les païens qui étaient admis sur le parvis extérieur du temple, mais ils ne pouvaient pas entrer dans le temple, parce qu'ils ne faisaient pas partie d'Israël. L'avertissement est pour ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont chrétiens de nom. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne se sont pas approchés du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toutes sortes d'avertissements. Rappelez-vous Matthieu 7, par exemple. Les personnes qui diront, mais nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Jésus dit, moi je ne vous ai jamais connu. Moi je ne vous ai jamais connu. L'Église de nom, l'Église de nom, institutionnelle, est annexé par le monde. Quand on se détourne de la Bible, quand on se détourne de Dieu, quand on se détourne du Seigneur Jésus-Christ, de la proclamation du salut en Christ seul et de l'annonce du jugement sur le péché, ces églises de nom ne deviennent pas neutres, elles deviennent des ennemis, elles deviennent les servantes de l'adversaire. Et elles viennent persécuter l'Église véritable. Il ne faut pas être de ceux qui sont sur le parvis extérieur du temple, parce que le parvis extérieur n'est pas mesuré. Il n'est pas mesuré. Il n'est pas protégé. Non, ceux qui sont protégés, ceux qui sont gardés, sont ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont au pied de l'autel et qui adorent Dieu. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont liés à lui par la foi et qui crient à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse nous montre comment l'histoire se termine, mais l'Apocalypse nous montre aussi ce qui se passe dans l'histoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans l'ère de l'Église. Les gens donc nous rappellent l'importance d'être proche de Dieu, de vivre dans sa présence par la foi en Christ, parce que c'est là la sécurité. 18e mot sur la feuille, c'est là la sécurité. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole et qu'il nous aide à la vivre pour sa gloire. Amen.